France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le jeudi 12 septembre. Bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour. À la une de l'actualité ce matin, la mise en examen du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, poursuivi pour prise illégale d'intérêt. C'est le retour de l'affaire des mutuelles de Bretagne. Explications et réactions, analyse dès le début du journal, après les autres titres, Agnès.
Métro, RER, bus, le détail de ce qui circulera demain en Ile-de-France, jour de grève à la RATP. Un congé paternité de 14 semaines rémunéré par l'entreprise, les initiatives se multiplient en France. Les primaires démocrates aux États-Unis avec un premier débat ce soir entre les trois principaux prétendants, dont une prétendante. Et puis quand la musique bouleverse les destins, celui d'une adolescente sud-africaine sur scène ce soir à l'Opéra Garnier dans la Traviata.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50, Léa.
Ils se sont aimés pendant 10 ans dans les années 90 et se retrouvent en cette rentrée au théâtre où ils vont jouer ensemble Elephant Man à partir du 3 octobre aux Folies Bergères. Un couple star, charismatique et indomptable ce matin. Béatrice Dalle et Joy Starr sont nos invités à 7h50.
À tout à l'heure et à 8h20, le grand entretien de la matinale avec le philosophe Régis Debray qui publie un très beau livre du génie français chez Gallimard. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
Comme un boomerang, l'affaire des mutuelles de Bretagne revient à assombrir la rentrée de la majorité dont Richard Ferrand est l'un des piliers. Ce fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron avait dû quitter le gouvernement en juin 2017 lorsque l'affaire avait éclaté. Après un classement sans suite justifié par la prescription des faits, il était revenu sur le devant de la scène, décrochant le perchoir il y a tout juste un an. Mais l'association Anticor a déposé une nouvelle plainte qui a donc débouché cette nuit, après plus de 14 heures d'interrogatoire, sur la mise en examen du quatrième personnage de l'État. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour.
Richard Ferrand est donc poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Que lui reproche-t-on exactement ?
Alors les faits remontent à l'année 2011. À l'époque, Richard Ferrand dirige les mutuelles de Bretagne. Elle cherche à louer un local commercial dans le centre de Brest. Et c'est un bien qui appartient à la compagne de Richard Ferrand qui est choisie. L'opération immobilière va s'avérer très rentable. Le contrat avec la mutuelle permet à la compagne de Richard Ferrand de financer à 100% à crédit l'achat de ce local. Richard Ferrand aurait donc mélangé intérêt public et privé si l'on considère que les mutuelles de Bretagne assurent une mission de service public. C'est une des questions juridiques au cœur de l'affaire. Richard Ferrand le conteste, il a toujours assuré n'avoir rien commis d'illégal ni d'immoral. L'autre point important, Agnès, c'est celui de la prescription. Le parquet de Brest, pour justifier son classement sans suite, avait estimé que les faits étaient prescrits, mais là aussi cela peut se discuter. Si on estime que l'infraction est dissimulée, le délai de prescription de 3 ans ne commence qu'à la révélation des faits, c'est-à-dire ici en 2017, avec les informations du Canard enchaîné. Avec cette mise en examen, les juges d'instruction lillois, qui ont entendu Richard Ferrand pendant près de 14 heures hier, considèrent donc qu'il y a des indices graves et concordants contre le président de l'Assemblée nationale.
Merci Corinne Audouin. Alors dès l'annonce de sa mise en examen cette nuit, Richard Ferrand a publié un communiqué de presse où il se dit déterminé à poursuivre sa mission à la tête de l'Assemblée. Bonjour Karine Bécard.
Bonjour.
La mise en examen d'un président de l'Assemblée nationale durant l'exercice de ses fonctions est inédite. Alors posons la question directement. Richard Ferrand, peut-il rester à son poste ?
Effectivement, combien de temps va-t-il tenir ? Il avait averti tout de suite qu'il ne démissionnerait pas de sa fonction de président de l'Assemblée nationale dès son élection au perchoir en septembre 2018, c'est-à-dire il y a tout juste un an. Mais comment va-t-il pouvoir résister à l'inévitable pression ? Alors c'est vrai qu'il a le soutien des députés de la majorité. C'est suffisamment rare pour être souligné dans l'affaire Benalla par exemple. Et puis surtout, plus récemment dans l'affaire Rugy, aucun d'eux n'était monté au front. Cette fois c'est différent, Richard Ferrand a été le premier des macronistes, il a été le premier secrétaire général du parti, il est celui qui a guidé les premiers pas de ses députés novices, donc il devrait être défendu par les élus de La République En Marche, en tout cas dans un premier temps. Non, la vraie question c'est que va faire Emmanuel Macron. Richard Ferrand a été un acteur majeur de la campagne présidentielle, mais cela n'avait pas empêché le tout nouveau président de le lâcher. 4 semaines seulement après l'avoir nommé au gouvernement, l'affaire venait d'éclater et Emmanuel Macron avait manifestement estimé qu'il était trop risqué de le garder.
Merci. merci Karine Bécart et autres figures de la majorité, dont le collimateur de la justice François Bayrou, entendu hier, tout comme Marielle de Sarnez, dans le cadre de l'enquête sur les emplois présumés fictifs des assistants de parlementaires européens Modem. À sa sortie hier soir, François Bayrou s'est dit très content d'avoir pu aller au fond des choses.
Il est 7h05, Agnès, un vendredi 13 de cauchemar pour les usagers de la RATP.
Le trafic sera très très perturbé demain. L'ensemble des syndicats appellent à la mobilisation contre la réforme des retraites. La mobilisation qui s'annonce donc exceptionnelle, du jamais vu depuis 12 ans, Mathilde Duhimi.
La dernière grande grève de référence à la RATP, c'est octobre 2007, déjà sur la réforme des retraites. À l'époque, deux lignes de RER sont fermées, le trafic métro très fortement perturbé. Mais cette fois, le nombre de lignes concernées par des fermetures est bien plus conséquent, 10 métros. Aucun train ne circulera demain sur les lignes 2, 3, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 10, 11, 12 et 13. Service partiel uniquement aux heures de pointe pour les lignes 4 et 7 avec un train sur 3 et uniquement sur certains tronçons, toujours aux heures de pointe pour la 8, un train sur 3 et la 9, un train sur 4. Les lignes automatiques 1 et 14 risquent par conséquent la saturation. Sur les RER gérés par la RATP, les gares seront fermées sauf aux heures de pointe, un train sur 3 pour le RER A, 1 sur 5 pour le RER B, sans interconnexion. Les trams devraient rouler un peu mieux selon les lignes. Un bus sur 3 en moyenne sur le réseau. Les Transiliens SNCF ne sont pas concernés par ce mouvement social.
Première étape de l'ouverture à la PMA à toutes les femmes. La commission spéciale de l'Assemblée a voté hier soir l'article 1 de la future loi de bioéthique. Deux amendements, LREM et Modem, ont également été adoptés contre l'avis du gouvernement. Ils offrent aux établissements privés de santé la possibilité de prélever, recueillir et conserver les gamètes, alors que la ministre souhaitait que cet acte soit réservé aux centres publics ou privés à but non lucratif. L'enquête sur les attentats du 13 novembre et cette requête des familles des victimes qui demandent des poursuites à l'encontre du chef de Daesh, Abou Bakr el-Baghdadi, complice selon elle des attentats qui ont endeuillé la capitale. Aux États-Unis, la primaire démocrate entre dans le vif du sujet à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle, avec ce soir un débat resserré entre 10 candidats, dont les trois favoris, Joe Biden, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, la sénatrice du Massachusetts, qui ces dernières semaines semble avoir pris un petit avantage sur ses concurrents, Gregory Phillips.
Oubliez les couacs du début de campagne, ces vidéos un peu maladroites sur Instagram où l'on voyait la sénatrice et son mari s'offrir une petite bière dans leur cuisine. Oubliez aussi la polémique sur les très lointaines origines amérindiennes de la candidate, un peu survendu, ce qui lui avait valu de la part de Trump le surnom de Pocahontas. Depuis plusieurs semaines, l'ex-professeur de droit à Harvard marque des points. Un sondage publié par la radio publique NPR dit que chez les électeurs démocrates, elle est désormais en tête, avec 75% d'opinion favorable devant Biden et Bernie Sanders.
They're ready for change and I got a plan for that.
Il faut dire qu'avec son credo « j'ai un plan », Warren a développé son programme résolument à gauche, démantèlement de certains GAFA comme Amazon, augmentation des impôts pour les plus riches, santé gratuite et universelle pour les enfants, ou encore retour des États-Unis dans les accords de Paris. Le prochain président, dit-elle, pourra faire de grands progrès sur cette question du climat. À 70 ans, la sénatrice progressiste semble être une bonne alternative à Bernie Sanders, jugée plus radicale, et une adversaire de poids pour Joe Biden dans cette course à l'investiture. Lors des deux premiers débats, organisés chacun sur deux soirées, ils ne s'étaient pas affrontés directement. Ce sera le cas ce soir. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Aux États-Unis, où les cigarettes électroniques aromatisées seront bientôt interdites pour tenter de freiner leur succès croissant auprès des jeunes, un lycéen sur quatre vapote outre-Atlantique.
Il est 7h09, Agnès, un congé paternité de 14 semaines rémunéré à 100% par l'entreprise.
Un rêve de futur papa qui va devenir réalité à partir du 1er janvier prochain pour les 35 000 salariés dans le monde de la société Kering. La loi française permet aujourd'hui au père d'avoir 3 jours à la naissance, 11 jours de congé paternité. Mais certaines entreprises ont déjà opté pour ce congé paternité allongé. C'est le cas notamment chez Patagonia, où travaille Julien, que Delphine est venue à rencontrer.
Il est le tout premier salarié de l'entreprise à avoir bénéficié de ce congé paternité à rallonge. Julien, commercial parisien, avait appris la nouvelle par mail pile au bon moment.
Ma femme était enceinte de 5-6 mois à l'époque.
Et déjà père d'un petit garçon, il l'assure.
11 jours versus 12 semaines, ça fait une vraie différence.
Julien ne veut renoncer à aucune de ces 12 semaines, mais il a fallu s'organiser.
Sur le papier, c'est très bien. bien, mais sauf qu'après, il faut pouvoir avoir 12 semaines d'absence au travail. En fait, on l'a coupé en 2 fois 6 semaines. Ça m'a permis, moi, d'assurer mon travail du quotidien, le suivi de mes clients, etc. J'ai réussi à faire mon travail d'une année avec 12 semaines en moins, donc il y a eu des moments qui étaient assez intenses aussi.
Quelques jours à la naissance, une autre partie au bout de 5 mois, le reste quand sa petite dernière a eu 1 an. Plus qu'un partage des tâches, Julien et sa compagne ont misé sur un temps en famille.
On a trouvé ça plus intéressant d'attendre que l'enfant grandisse un peu pour faire un break en famille 6 semaines et du coup de partir à 4 avec les enfants. En général, on fait 2 semaines maximum, mais là, c'est que ça change beaucoup de choses. Il y a plein de liens qui se créent. Du coup, j'en ai profité aussi avec le premier.
Ces congés paternité longue durée sont dans l'air du temps, veut croire le quadragénaire, mais il reste encore du travail.
C'est bien que les sociétés le proposent, mais c'est bien que les personnes le prennent aussi. Parce que je pense qu'il y a des sociétés qui le proposent et les personnes, en fonction des postes, vont dire non, moi j'ai beaucoup de travail. J'ai jamais fait moins bien mon travail parce que j'ai eu ces 12 semaines-là.
Et selon la direction de Patagonia, le calcul est simple, un salarié épanoui, c'est un salarié plus engagé et plus performant.
Des familles à la rue toujours plus nombreuses à Paris, c'est l'appel du SAMU social ce matin. Le dispositif est déjà saturé, reportage à 8h. Et on termine avec une belle histoire, celle de Preti Yende, née dans un township d'Afrique du Sud et en passe de devenir l'une des grandes voix de l'opéra. Ce soir, pour la première fois de sa carrière, Preti Yende chantera la Traviata de Verdi à l'Opéra Garnier à Paris. Stéphane Capron a assisté lundi soir à l'avant-première, entre tension et émotion.
Un public debout, plusieurs minutes d'applaudissements. Il n'en fallait pas plus pour rassurer Preti Yende, morte de trac avant de s'attaquer à la Traviata. Un bonheur partagé dans sa loge avec Stéphane Lissner, le directeur de l'Opéra de Paris, qu'il a vu débuter lorsqu'il dirigeait la Scala de Milan.
Que belle surprise avec ton public.
Depuis l'Académie de la Scala jusqu'à ce soir, c'était un long chemin qu'elle a fait.
Un chemin qui débute à 16 ans dans son township en Afrique du Sud. Elle découvre dans une pub à la télé l'air du duo des fleurs de l'Acmé. Elle se destine à la comptabilité, elle entre finalement au Collège de musique du Cap. Elle chante désormais sur les plus grandes scènes du monde et aborde avec une belle fraîcheur le rôle de Violetta.
Mon histoire n'est pas aussi compliquée que la sienne. Je peux très bien comprendre le sens de l'attention qu'elle reçoit parce qu'elle est une personnalité publique. Je rêve d'un avenir plus long que le sien. Mon cœur s'est parfois brisé, j'ai eu des déceptions amoureuses, mais pas au point de prendre les décisions qu'elle a prises.
Preti Yende est une jeune femme de son temps, très présente sur les réseaux sociaux, tout comme la Violetta imaginée par le metteur en scène Simon Stone, dans une scénographie très moderne où les images vidéo font office de décor.
Et à découvrir sur franceinter.fr le portrait de cette soprano sud-africaine, la Traviata, c'est jusqu'au 16 octobre à l'Opéra Garnier.